Merci Xavier pour cette invitation. Alors j'ai ouvert.
Florence doit quitter dans une demi-heure.
Alors je vais tout dire en une demi-heure. Pour Florence qui quitte dans une demi-heure. Alors j'ai ouvert l'ordinateur, c'est juste d'abord que ça fait un peu plus de lumière. Et puis pour vous montrer, non pas des vidéos, mais des sites de recherche qui vous permettront, puisque vous avez un travail à faire, je suppose que vous êtes en train d'y travailler. Ce qui est important, c'est d'avoir, moi je dis toujours, ce qui est le plus important, c'est d'avoir des outils. Et c'est ces outils-là que je voudrais vous transmettre. Et le plus important des outils dans le judaïsme, c'est la bibliothèque. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est important, c'est de savoir comment se repérer dans la bibliothèque, les yeux fermés, c'est-à-dire où savoir chercher le livre dont on a besoin, parce que la bibliothèque, elle est à la fois immense, mais elle est extrêmement simple. Et le judaïsme, alors, on a mais de la foi juive, tu as bien fait. C'est deux termes qui n'existent pas, donc ça c'est très important. Le judaïsme n'existe pas, d'ailleurs comme la philosophie. Il y a autant de philosophies qu'il y a de philosophes, même s'il y a ensuite des filiations avec des maîtres, des disciples, des écoles. Et il y a autant de judaïsme, je dirais presque, ce qui permet d'avoir différents courants dans le judaïsme, et bien que ça soit différents courants, ce sont pas des judaïsmes différents. J'ai, par exemple, ici, je ne sais pas si on vous a précisé, vous êtes au MJLF, c'est-à-dire le Mouvement Juif Libéral de France. Le Mouvement Juif Libéral, ce n'est pas entre le consistoire et le MJLF, et au niveau du judaïsme, entre guillemets, il n'y a pas de différence. Et donc, il ne faut pas parler de judaïsme libéral, comme disait un des grands rabbins libéral de Paris, qui s'appelait André Zaoui. Il a écrit un livre qui s'appelle une approche libérale du judaïsme. Le judaïsme n'est pas libéral, c'est l'approche. Et donc la question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que le judaïsme qui n'existe pas, et qu'est-ce que sont ces différentes approches, l'approche orthodoxe, approche laïque. Et par exemple, pour continuer le mot de Xavier sur spécialiste de la foi, ou qui va vous parler de la foi dans le judaïsme, le mot foi, c'est peut-être le seul mot qui n'existe pas vraiment. Je dis toujours, et ce n'est pas une blague, c'est pas une boutade, que je suis un rabbin, parce que certaines personnes pensent que je rigole, que je suis athée, Dieu merci. Voilà, je le précise, parce que la foi n'est pas du tout une problématique juive. C'est-à-dire que on peut être athée, on peut être laïque, on peut être incroyant. Si vous me posez la question très sérieusement, est-ce que je crois en Dieu ? Alors si je vous réponds non, c'est bio, en fait j'en sais rien. Et je dis toujours que dans le judaïsme, le nom de Dieu qui se dit El en hébreu, vient d'une racine qui se dit Oulai, qui veut dire peut-être. C'est-à-dire que Dieu est un peut-être. Dieu est un questionnement permanent, et d'affirmer son existence est, je pense, assez ridicule, dans la mesure où la nier, c'est manquer de respect par rapport à ceux qui y croient. Mais je pense que, en tout cas pour ma part, il y a une ligne du judaïsme qui remonte jusqu'à Maïmonide et encore au Talmud lui-même, c'est-à-dire que la question de Dieu, c'est la question de Dieu. La question de Dieu, c'est la question de Dieu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on affirme Dieu, on est idolâtre. Pour Maïmonide, qui dit dans une théologie négative, Maïmonide va développer une théologie négative, ça veut dire de Dieu, je ne peux rien affirmer. La seule chose que je peux faire, c'est de parler de lui en disant « il n'est pas ceci, il n'est pas cela, il n'est pas fini ». Il n'est pas humain, il n'est pas, mais ça laisse ouvert à une infinité de possibilités. Alors, si le judaïsme est multiple, et si le judaïsme n'est pas une problématique de la foi, qu'est-ce que serait ce judaïsme? Donc, je dis multiple, qu'est-ce qu'il serait et qu'est-ce qui va unifier les judaïsmes multiples? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans cette salle du mouvement juif libéral, je peux parler de quelque chose dont je pourrais parler exactement ou dans un dans une yeshiva, une académie talmudique orthodoxe. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que mon propos, celui que je vous donne ici, n'est pas un propos libéral. C'est mon propos que je délivre de la même façon dans, à chaque fois que j'enseigne, quel que soit le lieu. Je ne suis pas un rabbin libéral. Je ne suis pas un rabbin orthodoxe non plus. Hors norme. Je suis un rabbin qui essaye de se situer en dehors des différents courants pour justement pouvoir parler à tout le monde. Mais à ce moment-là, la question que vous me posez, c'est qu'est-ce qui va unifier, qu'est-ce qui va rendre possible le judaïsme dans sa diversité? La réponse, c'est très simple, c'est sa bibliothèque. Sa bibliothèque, ses livres, ça veut dire ce qui constitue son patrimoine littéraire, intellectuel, la langue aussi, qui est l'hébreu, l'araméen, le yiddish, va être le lieu où le judaïsme trouve sa place. Et quand je parle de bibliothèque, quand je parle de patrimoine littéraire, c'est-à-dire c'est l'ensemble de la bibliothèque. Quand vous allez rentrer dans une bibliothèque ici à côté ou aller à la synagogue tout en bas, peut-être qu'on y passera, à moins que vous êtes déjà passé, on retrouve exactement les mêmes livres, que ce soit dans un milieu libéral ou que ce soit dans un milieu orthodoxe. Voilà, ce qui unifie le judaïsme, c'est la bibliothèque. Pour bien comprendre de quoi il s'agit et de comprendre la différence avec le christianisme, il faut comprendre que dans les deux cas, les humains que nous sommes avons besoin d'incarnation. On a besoin d'incarnation. On a besoin de concrétude parce que même Descartes qui dit « je doute, je pense, donc je suis », ce n'est pas un cerveau qui marche, c'est pas un cerveau qui marche dans Paris, il y a deux chaussures et un cerveau qui marche. « Je pense, donc je suis », c'est un homme concret. Nous sommes des personnes concrétudes. Nous sommes des êtres finis, nous avons besoin de concrétude finie, et pourtant, on nous parle de transcendance, on nous parle de Dieu, et on nous parle d'infini. Comment cela se passe? Ça se passe de la manière suivante, c'est que toute religion est fondée sur l'incarnation, logie, phénoménologie veut dire en grec le discours sur l'apparition des choses, phanein, ça veut dire apparaître. La phénoménologie est une réflexion philosophique sur la manière dont les choses apparaissent. Il y a une phénoménologie du divin. Il y a une théophanie, on dit aussi de manière savante, mais je préfère phénoménologie du divin. Or, quelle est la problématique de la phénoménologie du divin? C'est qu'il y a une sorte de paradoxe, voire d'impossibilité. Comment Dieu, qui est infini, peut-il se manifester dans le fini? C'est ça la grande question métaphysique, le passage de l'infini de Dieu à sa vie. A résolu le problème par un intermédiaire qu'on appelle une hypostase, qui est le Christ, qui est la manière dont l'infini du divin, de Dieu dit le Père, se manifeste concrètement dans l'incarnation du corps du Fils. Mais le judaïsme n'est pas une religion où il n'y a pas d'incarnation, il y a aussi une incarnation, mais l'infini de Dieu s'est incarné dans un livre. L'incarnation de Dieu s'est incarnée dans un livre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un livre dans la tradition juive, c'est-à-dire que vous avez par exemple le texte de la Torah, ce n'est pas simplement le texte de la Torah, c'est le divin infini qui s'est, on va prendre un mot en hébreu, qui s'est contracté dans les... Quand je me promène avec un livre dans la main, c'est Dieu qui s'est contracté dans le livre. Mais Dieu est en prison dans ce texte. Ça veut dire que Dieu accepte de se faire fini, de se laisser emprisonner dans la littérature des lettres carrées de l'hébreu, mais un message, un appel de SOS, si vous voulez, un appel au secours en disant J'ai accepté de me faire fini, maintenant à vous de jouer de telle manière que je retrouve la dimension infinie qui est mon essence. Or, comment quelque chose qui est fini dans un texte peut... C'est très simple, par le commentaire et l'interprétation. Et c'est pour cela que le judaïsme est une, non pas une religion, mais une tradition d'interprétation. Si véritablement on veut comprendre ce qu'est le judaïsme, c'est un rapport ontologique au livre et un rapport d'interprétation. Vous avez raison de me poser la question, qu'est-ce que c'est que l'ontologie, un terme barbare de la philosophie? Là encore, c'est comme la philosophie et le judaïsme, chaque philosophe va définir l'ontologie de manière différente. Donc, l'ontologie, c'est la science de l'être. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la science de l'être? En quoi mon rapport au livre est ontologique? En quoi mon rapport à l'interprétation est ontologique? Le philosophe Hans Jonas, qui a écrit un livre très important que je vous conseille de lire, ou en tout cas de connaître le résumé, qui s'appelle « Le principe responsabilité », dans un petit livre que vous trouverez chez Rivage, qui s'appelle « L'éthique de la nature », ou un autre titre. Il a écrit aussi un livre qui s'appelle « Le concept de Dieu après Auschwitz », dont je peux parler aussi. Au revoir Florence, et on pensera à vous quand on va continuer.
Et moi je vous écouterai avec délices, autrement que via France Culture.
Bon, d'accord, ben, c'est avec grand plaisir.
Bonne soirée.
Bonne soirée à vous. Et donc, l'important c'est donc, je reprends le fil de la phrase, Hans Jonas, qui a écrit, vous donner le titre, la couverture est bleue, et il a écrit aussi un livre dont je vais vous parler, qui s'appelle « Le concept de Dieu après Auschwitz », qui est en rapport avec ce que je suis en train de dire, et qui dit que « ontologique », ça veut dire ce qui est absolument nécessaire. Si cette chose n'existait pas, on ne pourrait pas exister. Ontologique, c'est l'incontournable. Si on ne l'a pas, nous fait défaut ontologiquement. Un exemple très simple, boire est ontologique. Je vois qu'il y a beaucoup de verres d'eau et de verres devant vous. Boire est ontologique. Si quelqu'un ne boit pas, il meurt. C'est que l'eau est nécessaire à la vie. Maintenant, il y a de l'eau minérale, oui, du coca, de l'eau du robinet. Le Coca-Cola n'est pas ontologique. Le jus de fruits n'est pas ontologique. Mais l'eau, H2O, est ontologique, qu'elle soit minérale ou qu'elle soit du robinet, qu'on appelait dans les années 70-80 Château Chirac, mais maintenant, va falloir trouver un nouveau nom. C'est ça qui est ontologique. Manger est ontologique. Manger des fraises n'est pas ontologique. Manger du pain est ontologique, parce que peut-être même pas, c'est manger qui l'est. Qu'est-ce qui fait que tout à coup on ne pourrait pas vivre? Ben, cette, la dernière limite qui nous fait passer de la vie à la non-vie, cette limite-là va nous définir ce qu'on va appeler l'ontologie. Ce qui est éminemment important comme définition pour le judaïsme. Mais à la différence que l'eau et le pain, on va prendre un exemple, définition biologique, c'est une ontologie biologique. Alors que ce que je vais définir ici est une ontologie, je dirais, idéologique. Ce qui ne veut pas dire que l'idéologie est ici quelque chose de mauvais, c'est, je dirais, une ontologie notionnelle. Lévinas dit, par exemple, par rapport... Heidegger a défini l'être comme un sein zum Tod, c'est-à-dire en allemand un être qui a un rapport à la mort. Sein zum Tod, c'est être pour la mort. Être pour Heidegger, c'est toujours être pour la mort. Ça veut dire qu'il y a une finitude qui fait que la mort appartient de manière ontologique à l'homme, puisque aucun de nous, issus de la poste du post-humanisme, mourra un jour, peut-être beaucoup plus tard, mais va mourir. La mort est ontologique, elle appartient de manière incontournable à la vie. Pour Lévinas, il dit, je comprends très bien ce que dit Heidegger, Mais moi, il dit, je ne suis pas un être pour la mort, je suis un être pour l'au-delà de la mort. Ça veut dire, je suis un être qui est responsable non seulement du fait que je vais mourir, mais de savoir comment ce que je vis va rendre possible la vie des autres qui viendront après moi. Ce qui est éminemment important d'ailleurs, puisque ça nous permet de définir, selon Hannah Arendt, ce qu'on appelle le présent. Ce qu'on appelle le présent. Qu'est-ce qu'on appelle le présent? C'est très important dans la discussion que nous avons, que je vous présente. Le présent, dit Hannah Arendt, en commentant un texte de Kafka, mais c'est seulement dans la version française qu'elle dit cela, c'est que le présent n'est pas l'instant présenté dans lequel je suis. Le présent, du cours, c'est maintenant. Le présent, c'est le temps qu'il y a entre le moment où je viens au monde et le moment où je sors du monde. Ça sera mon présent au monde, ma présence au monde. Mais, dit-elle, qu'est-ce que c'est que cette présence au monde? Qu'est-ce que c'est que le présent du monde, pour moi? Et, à partir de Hannah Arendt, le texte est en anglais, mais elle le pense en allemand, je vous le traduis en français, elle dit, le présent, enfin, à partir de Hannah Arendt, je dis, le présent, c'est le présent que je fais au monde. C'est-à-dire qu'il y a un jeu de mots, une amphibologie, du présent comme temps et du présent comme cadeau. Et avoir un présent, c'est être capable de léguer quelque chose à l'humanité. Mon présent sera le présent que j'ai fait à l'humanité. Qu'est-ce que je laisse après moi? Comment ma vie a un sens particulier qui fait que si je n'avais pas vécu, le monde s'en porterait moins bien? C'est-à-dire en quoi ma vie est incontournable. En un mot, en quoi ma vie et mon présent auront été de l'ordre de l'être incontournable, non seulement du vivant que je suis, mais du vivant du monde. Hein? C'est-à-dire la question que vous vous posez, ben, si un jour on meurt, est-ce que ma vie aura été nécessaire à l'humanité? Si vous répondez non, avec humilité, c'est bien dommage, parce que c'est le seul cas où il faut répondre avec orgueil que ce que nous vivons, on le vit ça apporte quelque chose. C'est la question qu'on doit se poser tous les jours. Qu'est-ce que je suis en train de faire qui fait sens non seulement pour moi, mais pour l'humanité? On appelle ça une liturgie, dit Lévinas. C'est dans un livre qui s'appelle « En découvrant l'existence » avec Husserl et Heidegger. Et j'appelle liturgie, dit-il, ce qui fait que je suis non pas un être pour la mort, mais un être pour l'au-delà de la mort. Ça veut dire laisser un héritage. Un héritage, et je crois qu'il y a une phrase comme cela qui est très proche de Saint-Exupéry sur ce que nous laissons à nos enfants.
À propos de présent au monde et au présent que tu nous fais, Marc-Alain, je te rappelle, hein, c'était, l'idée c'est de repartir, tu disais, de la parole performative divine.
Tu as raison. Et, alors, j'avais dit que tu me dises cela au bout de la 17e minute. Je pense que donc on est bien à la 17e minute et je ne suis pas en retard.
Non, t'es bien.
Et donc je suis dans le bon. La question donc est cette ontologie, et donc Lévinas ajoute, et donc ça me permet d'arriver à cette question du performatif je vais vous entretenir. Lévinas ajoute qu'il faut remplacer le Sein zum Tode de Heidegger, de l'être pour la mort, à Sein zum. Je suis un être pour le livre. Ça veut dire que de la même façon que Heidegger pense que la mort est incontournable pour l'être, je pense que le livre est incontournable pour l'être. C'est-à-dire qu'avoir des livres chez soi à la maison, avoir des livres et être capable de lecture et d'interprétation, c'est ça qui est dote, que m'a raconté un de mes amis récemment, et une amie qui est une très 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 grande designer d'intérieur, qui avait été appelé il y a quelques années à faire un palais royal dans un pays asiatique, et elle a fait donc ce palais royal. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que dans cette maison, il n'y a pas un seul livre. C'est-à-dire que c'est un palais royal, mais il n'y a pas un seul livre. C'est-à-dire que la dimension de la culture, elle est différente. C'est pour ça que je parle d'idéologie. Je ne dis pas que lire, c'est mieux que de ne pas lire. Je dis que dans la tradition juive, le premier moment qui constitue le judaïsme, c'est le livre. Ce livre, donc, j'y viens, c'est la 17e minute, c'est donc la Torah. C'est donc la Torah. Qu'est-ce que c'est que la Torah? La Torah, ce sont... Alors, c'est un terme que l'on, duquel on abuse beaucoup. Mais il y a deux sens à la Torah, ou presque trois sens. La Torah, c'est stricto sensu les cinq livres de Moïse, c'est-à-dire la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Et ce texte-là, ces cinq livres, on les complète dans cet écrit du judaïsme par ce qu'on appelle les prophètes, dans lesquels vous avez le livre de Josué, les juges, les rois, les prophètes Jérémie, Ézéchiel, Isaïe, 12 petits prophètes. Et puis une troisième partie qu'on appelle les écrits, qui sont des livres de sagesse, comme le Cantique des Cantiques, l'Ecclésiaste, ou des livres narratifs, ou des livres de sagesse, comme les Proverbes et les Psaumes. L'ensemble de ces textes s'appelle, pour les cinq livres de la Torah, c'est la Torah, mais l'ensemble s'appelle la loi écrite. Et par abus de langage, on parle de la Torah pour l'ensemble de cette bibliothèque. À côté de cette bibliothèque des livres écrits, il y a une infinité de commentaires qui sont renouvelés de génération en génération, et de manière générique, on parle de ces commentaires comme étant le Midrash, qui veut dire l'interprétation, qui veut dire l'étude et l'interprétation. Je vais détailler tout cela, c'est le propos d'aujourd'hui, en commençant, et je m'arrêterai sur trois personnages bibliques aujourd'hui, Adam, Abraham et Moïse. Et vous voyez dans les éléments qui sont abordés, est-ce qu'on vous les a distribués, les éléments abordés, c'est ce que j'appelle ici, ce que je viens de dire pour l'instant, c'est les corpus oraux et écrits, Torah et Talmud, c'est ce que je viens de vous lire, c'est dans le document, ce document, petit document qui s'appelle les éléments qui sont abordés. Et le judaïsme du temple et le judaïsme rabbinique, j'y reviendrai par la suite, pour faire la boucle par rapport à ce que je suis en train d'aborder. Qu'est-ce que c'est que la Genèse ? Qu'est-ce que c'est que la Genèse ? Et qu'est-ce que c'est que ce livre qui a fait le commencement, qui s'appelle Bereshit, la Genèse, qui veut dire « au commencement », on traduit généralement « Dieu créa le ciel et la terre ». Il y a 1000 interprétations, on pourra faire un jour une étude sur toutes ces interprétations, mais ce qui est important, et ce sur quoi je veux m'arrêter, c'est le commentaire de Rashi, du Moyen-Âge, qui a commenté la Torah, toute la Bible et tout le Talmud, et qui est édité dans toutes les Bibles qui sont éditées, dans tous les Talmuds qui sont édités, c'est toujours édité avec le commentaire de Rashi. Rashi, c'est l'acronyme de Rabbi Shlomo Yitzraki, qui vivait à Troyes au 11e, début du 12e siècle, à Troyes, en Champagne. Et Rachid dit, il ne faut pas lire le texte comme « au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Point. Avec, deuxième verset, « et la terre était au hubohu, et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux ». Deuxième verset. Je l'ai versé. « Et Dieu dit que la lumière soit » et la lumière fut. Ça, c'est la traduction classique de 90%, 99% des traducteurs. Rachid dit non. Si je dis, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre, et ensuite la terre était au hubohu, et ensuite que Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, ça veut dire que, quelle est la première création? C'est une question que je vous pose. Quelle est la première création? Ben, c'est le ciel et la terre. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Et puis on nous explique que la terre est au hubohu et que le souffle de Dieu est, que Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, la lumière elle vient après. Rashi dit non. La phrase on doit la traduire comme cela d'un point de vue grammatical. Il ne faut pas traduire au commencement Dieu créa. Mais Bereshit bara, qui en français est traduit par Dieu créa, en fait veut dire en hébreu Bereshit bero, de la création. Du ciel et de la terre. Il n'y a rien pour l'instant. C'est au commencement de la création du ciel et de la terre. alors que la terre était tohu-bohu, ça veut dire qu'elle était encore, je dirais, en puissance, mais pas du tout encore créée, et que le souffle de Dieu à la surface des eaux, mais des eaux qui ne sont pas les eaux de la terre, des eaux célestes. Donc il n'y a rien. La création du ciel et de la terre, alors qu'il n'y avait rien. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça veut dire que la lumière est la première création du monde. C'est la première création du monde. C'est révolutionnaire, mais ça va beaucoup plus loin. Pourquoi c'est révolutionnaire? Parce que on apprend de ce verset, Dieu dit que... C'est-à-dire qu'il y a une coïncidence entre la parole divine et la réalité qui est dite dans la parole. On appelle cela en linguistique, depuis Austin, que vous relirez dans un livre qui s'appelle, en anglais, avec l'accent de Marrakech, How to do things with words, comment faire des choses avec, comment faire des choses avec des mots. Le performatif, nous explique Austin, c'est une catégorie juridique. C'est une catégorie juridique. Qu'est-ce que ça veut dire un performatif en linguistique? Ça veut dire qu'au moment même où je parle, l'action est réalisée. Par exemple, si je dis « je marche », est-ce que « je marche » est performatif? Réponse non. Parce qu'au moment où j'ai dit « je marche », je ne suis pas en train de marcher. Par contre, si je dis « je jure » et que je suis au tribunal, l'action de jurer existe au moment. Donc, c'est la parole qui est l'action. Comment faire des choses avec les mots? Le performatif, c'est quelque chose, une catégorie extrêmement importante. Donc, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le langage humain a besoin d'avoir une phrase pour dire Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Elle est, elle advient après que Dieu ait parlé. Non. Au moment même où Dieu dit que la lumière soit, la lumière est à ce moment-là, d'une certaine manière. Ça veut dire que, là, ça, comme dirait l'évangile de Jean, qui reprend cette idée, au commencement était le Logos, et le Logos s'est fait chair. C'est l'incarnation de la parole, mais de manière simultanée. Mais quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas, si je dis que la lumière soit, ben, la lumière elle n'est pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce verset? Qu'est-ce qu'il fonde? Il fonde une éthique. Il fonde une éthique, et j'ouvre une petite parenthèse pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans mon propos. Le mot éthique est un mot vague de la philosophie. Il n'a de sens que la manière dont on le définit. Chaque philosophe redéfinit l'éthique de manière différente. L'éthique de Kant n'est pas celle de Spinoza. L'éthique de Spinoza n'est pas celle de Lévinas. Donc, l'éthique, ça veut dire pour moi ici une manière d'être qui est une manière, je dirais, qui nous permet d'exister de manière juste. De manière juste, dans une société juste. Et je reprendrai ici, en fait, les termes qui vont de Aristote à Ricoeur sur qu'est-ce que c'est que l'éthique. La possibilité de vivre de manière juste dans une société. Il y a une éthique. Quelle est l'éthique de la lumière? Si, par exemple, demain, il y a un sondage, on vous demande qu'est-ce que vous avez fait de 19h30 à 20h30, eh bien, vous direz, Marc Alain a pris 17 minutes pour arriver au performatif, et qu'il a dit à ce moment-là qu'il y a une éthique de la lumière. L'éthique de la lumière, c'est une expression poétique. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue politique? Ça veut dire d'un point de vue de l'organisation de la cité. Politique, c'est l'organisation de la cité. Ça veut dire la chose suivante, c'est que quand la lumière a été, ça veut dire que quand Dieu parle, ce qu'il dit se réalise. C'est-à-dire que je peux faire confiance à la parole qui a été énoncée, je peux compter sur cette parole. L'éthique de la lumière, c'est de pouvoir compter sur la parole qui a été énoncée. Ça peut être, à la suite de Nietzsche, dont je vais vous parler longuement, ça peut s'appeler une éthique de la promesse. Une éthique de la promesse, qu'est-ce que c'est que la promesse? La promesse est un verbe qui est aussi performatif, je promets que, mais à la différence du performatif immédiat où la chose est au moment où je parle, bien que quand je dis « elle est performative », parce que c'est au moment où je dis « je promets » que la promesse est, mais la réalisation de la promesse, elle a lieu beaucoup plus tard. Elle a lieu beaucoup plus tard. Pour le texte biblique, et pas pour le judaïsme, pour le texte biblique, la création du monde, c'est quoi la création du monde ? Ben, c'est la création d'une éthique de la promesse. Au commencement de la création du ciel et de la terre, alors qu'il n'y avait rien, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, et mise en place une éthique de la promesse, ça veut dire que je peux compter sur la parole qui est énoncée. Un être lumineux est un être qui tient ses promesses, c'est un être qui tient ses promesses. Et c'est cela le sens même de ce texte-là. À ce moment-là, je vous demande de lire la généalogie de la morale de Nietzsche, et quand je dis je vous demande de lire, ce n'est pas une formule, c'est très sérieux. Et dans la deuxième, aborde ce problème-là de la manière suivante. Il dit, alors je le dis à ma façon, mais vous retrouverez exactement cela dans son texte, c'est très beau de dire que Dieu dit que la lumière soit, que la lumière fut, mais ça c'est du côté du divin. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'humain ? Est-ce que nous sommes tous des êtres lumineux ? Est-ce que nous sommes tous des êtres qui disons... Est-ce que nous sommes toutes, tous des personnes sur qui on peut compter ? Est-ce que je suis un être suffisamment responsable pour tenir ma promesse ? Et Nietzsche donne le verdict qui montre là justement, généalogie de la morale, c'est pas un jugement moral, c'est une généalogie de la morale. Il nous explique comment c'est pas un jugement, c'est simplement une remarque. C'est simplement une remarque, c'est différent. Un jugement moral, c'est porter un jugement critique qui laisse sous-entendre que je ferais mieux que ce que je suis en train de critiquer. Une généalogie de la morale, c'est de dire c'est un constat où je ne porte aucun jugement. L'humain est construit de telle manière qu'il est capable de faire des promesses, mais il est surtout incapable de les tenir tout le temps et en permanence. La deuxième dissertation de la morale commence de la manière suivante. L'homme, cet animal capable de faire des promesses. L'homme est un être de promesses, mais pas un être de tenir sa promesse. À ce moment-là, qu'est-ce que Nietzsche va mettre en place ? Ben, il va expliquer tout simplement que c'est parce que nous ne sommes pas capables de tenir nos promesses que le droit va naître, la naissance du droit est une conséquence de, je dirais, alors c'est dialectique, d'une ontologie de la promesse. Qu'est-ce que ça veut dire une ontologie de la promesse ? Maintenant vous le savez, ça veut dire que je ne peux pas vivre sans faire des promesses, mais je ne peux pas vivre en les fois que j'en fasse et à la fois que je sois capable de trouver un moyen de pouvoir les tenir. À ce moment-là, dit Nietzsche, il faut la naissance du droit, et en particulier la naissance des contrats. Ça veut dire que l'humanité commence avec un homo juridicus, qui est un homo contractus, si le mot existait. C'est-à-dire que si on vous demande qu'est-ce que c'est que la Genèse, qu'est-ce que le judaïsme pense de ce commencement, vous pouvez dire, qu'il nous fait réfléchir sur le fait que ce texte qui va constituer une base juridique de l'humain est là pour nous expliquer pourquoi le à la constitution d'une cité, c'est-à-dire d'une cité heureuse, c'est-à-dire d'une cité juste, c'est-à-dire une politique où les hommes peuvent s'entendre de la meilleure façon possible. Je vous renvoie à un texte de... il m'échappe pour l'instant, c'est François Julien ou Philippe Julien, c'est vous qui allez me le dire, qui a écrit, ça s'appelle « L'entrée des possibles, regardez si vous avez, si vous avez Internet ». On va mettre comme ça, Julien, commencement, on va voir si l'oracle nous donne tout de suite. Voilà, il nous le donne, j'accepte. « Entrer dans une pensée » ou des possibles de l'esprit, chez Gallimard, François Julien, voilà, c'est entrer dans une pensée ou des possibles de l'esprit. Un livre facile à lire, je vous donne que des bibliographies de livres où il n'y a pas de jargon. Dès qu'il y a du jargon, ce n'est pas la peine de perdre du temps. Et dans ce livre, il dit que pour entrer dans une pensée, et chaque philosophie et chaque culture a une pensée différente, bah, la meilleure façon d'entrer dans une pensée, c'est d'analyser quelle est la première phrase du texte fondamental. Regardez, c'est pourquoi je proposerai ici, à titre de travaux pratiques, de commencer par lire une simple phrase de chinois, les premiers mots du Yi Qing sur le commencement, de la lire du dedans, dans son énoncé et dans son commentaire, comme aussi du dehors, qu'il soit de la Bible, de la Grèce et de nos prochains et plus lointains orients, s'érige alors progressivement un seuil qui fait entrer, du même soudain devant nous, une, et je vous laisse lire la suite, une, qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'est-ce que vous dites ?
Une tâche immense.
Concevoir une histoire de l'avènement de l'esprit qui ne relève plus de la seule Europe. Donc ça, c'est extrêmement important, puisque quand on parle de la Bible, ben, on ne parle pas d'une autre pensée. On veut rentrer. En fait, qu'est-ce qu'on fait ? On importe des masques de Chine, mais on n'a pas lu le Yi Qing. C'est quand même problématique. Or, comment vous voulez commercer, c'est-à-dire avoir des relations avec les Chinois, pour que cette relation soit juste, il ne faut pas qu'elle soit purement commerciale. Il faut qu'elle soit... Et pour comprendre l'autre, ben, il faut essayer d'entrer dans son univers intellectuel. Et donc, il faut lire. C'est pour cela que comprendre le judaïsme, c'est pas parler de judaïsme, c'est d'entrer dans les textes du judaïsme. Et à l'instar de François Julien, quand il dit « entrer dans une pensée ou des possibles de l'esprit », je dis que pour entrer, il faut entrer dans la première phrase, « au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre ». Quelle était la nouveauté de cette première phrase aujourd'hui que je vous transmets au nom de Rachid III ? C'est que la première phrase, il faut bien comprendre qu'en hébreu, il n'y a pas de point dans le texte biblique. Le texte biblique, je vais vous le montrer, si je vous montre une écriture de Torah, par exemple, Sefer Torah, on va mettre Sefer Stam, comme ça c'est juste des termes un peu, voilà, comme ça, on va trouver un texte ici, voilà, ici, ou ici, il est très très bien, voilà, il est mieux. Voyez ici, je le fais en grand, voilà. Ici, vous avez cette image, vous voyez, c'est un passage de la Torah. Qu'est-ce qui le caractérise ? C'est que tous les signes que vous voyez là ne sont que des consonnes. Le texte est un texte purement consonantique. Il n'y a pas de voyelle. La voyelle, c'est le lecteur qui connaît le texte qui met la voyelle. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas le texte, vous ne pouvez pas le lire. Mais si vous ne le connaissez pas, ce qui est formidable, c'est que vous pouvez tellement imaginer de lecture que ça fait une création poétique extraordinaire. Il Bereshit bara, qui veut dire au commencement, Bereshit bara Elohim, au commencement Elohim créa. Vous avez vu que Rashi ne lit pas Bereshit bara, mais Bereshit bero. Mais comment il peut lire Bereshit bero si c'est écrit Bereshit bara ? C'est la question que vous deviez me poser tout à l'heure. Eh ben, la réponse, c'est qu'en fait, il peut même lire Barashit, c'est-à-dire il a créé le shit. Hein, voilà. Parce qu'il y a un mot en hébreu, shit. Shit, c'est pas le. Shit, ça veut dire le fondement. Barashit, il a créé le fondement. Mais vous pouvez lire aussi Birishot, puisqu'il n'y a pas de voyelle. Ce qui fait qu'il n'y a pas de voyelle, mais il n'y a pas non plus de virgule, et il n'y a pas non plus de point, ni virgule, ni de point. Ce qui fait que vous voyez que la phrase. C'est le lecteur qui la constitue. Et donc, quand je dis « on rentre dans la première phrase », pour la tradition, on peut avoir la première phrase comme « au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre ». Et pour Rashi, la première phrase, c'est « au commencement de la création du ciel et la terre, alors qu'il n'y avait rien, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. » Point. C'est ça. Ça, c'est une autre lecture. Mais comment c'est possible ? Vous allez me dire, mais comment il veut lire ? Mais parce que, justement, il y a une liberté de... la lecture. C'est-à-dire que la lecture, c'est déjà une interprétation. Et, juste, je fais une parenthèse, puisque je parle de cette première phrase, il y a beaucoup de traductions, mais ce qui est très important dans l'hébreu, regardez, on le voit très bien ici, c'est que, voyez, qu'est-ce qui constitue un mot ? Là, j'ai une lettre, deux lettres, trois lettres, quatre lettres, par exemple ici. C'est-à-dire j'ai quatre consonnes. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a un mot que je peux deviner à côté de deux consonnes? C'est qu'il y a un blanc qui est entre les deux. Ce qui fait le blanc, d'accord? Comme dit Mallarmé, ce sont les blancs qui assument l'importance d'un texte. Voilà, vous relirez, c'est l'introduction du jeu du dé. Jamais un coup de dé n'abolira le hasard. Et dans son introduction, il dit, ce sont les blancs qui assument l'importance. Ce qui fait que, pour souligner ces blancs, il y a dans le texte, il y a des petits blancs. Mais quand on lit le texte, les blancs font que on s'arrête plus ou moins longuement entre les mots. Par exemple, c'est un exemple qui est faux, mais qui est paradigmatique, méchonique. Vous voyez qui est méchonique? Non, vous ne voyez pas qui est méchonique. Henri Méchonique, très grand linguiste du XXe siècle, qui a retraduit la Torah, comme Chouraki, par exemple. Chouraki, il a retraduit tout. Lui, il a retraduit la Torah. Et il dit, il ne faut pas lire « Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre ». Parce que là, on n'entend pas les blancs. Mais il faut s'arrêter entre le commencement et Dieu qui crée. Et il lit comme cela, « Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre ». Vous savez que tout à coup, ce qui semblait être simplement un espace blanc devient quelque chose avec un silence qui a une épaisseur, une densité extraordinaire. Bien. Donc, je reprends mon propos. Vous avez compris que, alors, donc, si on vous demande, c'est le deuxième sondage, qu'est-ce qu'on a étudié hier avec Marc-Alain? Ben, c'est simple. On a étudié la première phrase de la Genèse. Et pourquoi a-t-on étudié la première phrase de la Genèse? Parce qu'on a suivi le conseil de François Julien que pour entrer dans une pensée, il faut étudier la première phrase du texte fondateur. De la même façon qu'on aurait pu étudier la première phrase du Viking, la première phrase du Coran ou la première phrase de Hésiode, ce qui est le cas qu'il donne pour la littérature gréco-romaine. Bien. Et à ce moment-là, on a découvert, vous direz, on a découvert une éthique de la promesse. Qu'est-ce que ça va introduire, cette éthique de la promesse? Ben, ça va nous faire extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, et ça va résoudre un des problèmes les plus compliqués, les plus complexes, de l'interprétation biblique. Pourquoi? Au chapitre 1, verset 26 de cette même Genèse, on dit, regardez, alors là, pour traduire les textes, vous allez sur un site qui s'appelle Handbound Bible. D'accord? Si vous êtes amené à avoir des réflexions sur la Bible et comprendre la Bible, vous allez sur ce site Handbound Bible. Qu'est-ce que nous dit Handbound Bible? Ben, il est extraordinaire parce que, donc vous voyez, il est en anglais, mais vous le mettez en français. Là, vous voyez en haut, vous le mettez en français. Et c'est un site qui vous donne jusqu'à 9 traductions simultanées de chaque verset biblique. Ou voilà. Par exemple, ben, nous, on va prendre le chapitre 1 de la Genèse, dont on vient de parler. On choisit notre livre, Genèse. Et là, on va choisir juste, par exemple, alors pour faire 9, on dit recherche simple, parce que c'est simple, hein, 9 versions parallèles, on y va ici, on nous dit allez, on y va, c'est les supporters. Première traduction, Bible de Jérusalem, qu'est-ce que vous voulez en deuxième traduction? Darby, ok. Qu'est-ce que vous voulez en troisième traduction? Second, ok. En quatrième traduction, vous voulez
Luther.
Martin, vous voulez Luther, ouais. Parfait. Alors, Luther, c'est en allemand, donc il est là. Vous l'avez vu en allemand?
Ouais, là.
Luther, on a Luther 1515. Vous voulez la King James en anglais?
Ouais.
Hein, anglais, c'est ici la King James, elle est bien. Standard version. Est-ce que vous voyez quelqu'un voit la King James? Elle est là. Vous voulez, on se fait un petit peu d'italien? Allez, c'est parti. Italien, F, G, E, F, G, H. Il est où l'italien? Voilà, non, on va prendre celui de Tizan. Quelqu'un parle espagnol ici? Pas tous à la fois. Alors, on va prendre un peu d'espagnol. Voilà, l'espagnol de l'époque de Don Quichotte. Qu'est-ce que vous voulez?
L'espéranto.
Ben, l'espéranto, moi, ça me parle bien. Hein. L'espéranto, vous allez voir qu'il n'est pas très loin de l'espagnol. Espéranto. Et puis, dernier, qu'est-ce que vous voulez?
Allez, le grec.
Parti. un grec moderne, mais on va prendre la Septante avec les accents. La Septante, c'est cette Bible traduite en moins 386, première traduction. Bon. Chapitre 1 de la Genèse, voilà, et on nous dit Genèse. Donc là, on aura tout le chapitre, c'est extraordinaire. Vous cliquez sur rechercher, et vous avez les 9 traductions. C'est la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis, Dieu dati en italien, je ne parle pas l'italien, donc je lis avec l'accent de Toulouse, nel principio, non, principio, comment vous dites, principio, Idio creo, il cielo e la terra. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, en el principio creo Dios, los cielos y la tierra, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, etc., etc. Et vous voyez qu'en Esperanto, en la comenzo Dios crees la... Je ne lis pas couramment l'espéranto. Quoi qu'il en soit, vous voyez que personne ne suit la traduction de Rashi. Alors, comme j'ai une... Comment on appelle ça? J'ai une montre à l'intérieur qui s'appelle Xavier, qui me dit que je dois accélérer. Je vais un peu plus loin, jusqu'au chapitre 26, jusqu'au chapitre verset 21. Voilà. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, etc. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. Voilà. Le fait que l'homme, cet homme qu'on a créé, il est créé masculin et féminin. Et c'est très bizarre, parce qu'en fait, la création de la femme n'apparaît que dans le deuxième chapitre de la Genèse. Donc, si on a une création de femme au deuxième chapitre, qu'est-ce que ça veut dire ici ? Masculin et féminin. D'ailleurs, c'est traduit homme et femme, mais en hébreu, c'est pas zachar ou nekeva, masculin et féminin. Or, qu'est-ce que c'est que le masculin et le féminin ? En quoi, justement, cette traduction est absolument complètement erronée, hein ? Regardez, on a même en allemand « Männlein und Fraulein », quelque chose comme ça. Personne ne dit, alors à part ici l'italien, ici « mâle et femelle », c'est très bien, et « maschio » et « féminin », bon, et « créa mâle et femelle ». Mais c'est surtout pas « homme et femme ».« Homme et femme », c'est un contresens. Or, qu'est-ce que c'est ? Il faut comprendre que cette Genèse, elle a été écrite à partir de sources complètement babylonienne. C'est-à-dire que le judaïsme est né dans frontière de deux civilisations opposées. Et on va les retrouver dans la Bible. La terre d'Israël, ce qui va devenir la terre d'Israël, se trouve entre la Mésopotamie à droite et l'Égypte à gauche. Ça veut dire que c'est une civilisation, la civilisation biblique, est une civilisation intermédiaire entre la civilisation mésopotamienne et la civilisation biblique. C'est ontologiquement, j'ai besoin. Merci. Amen, Kenny Ratson. Amen. Bon, j'ai fait une petite bénédiction avant de... C'est-à-dire, je suis un rabbin athée pratiquant, ce qui est un peu compliqué, mais je vous expliquer ça un jour. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les 11 premiers chapitres de la Genèse sont une reprise intégrale de mythes mésopotamiens. De mythes mésopotamiens, de mythes babyloniens. On retrouve tout ce qui est marqué dans ces 11 premiers chapitres dans l'épopée de Gilgamesh. Que ça soit l'histoire de Noé, que ça soit la création de Adam, tout ce que... De dire cela, ça veut strictement rien dire. Mais ça veut dire que il y a, je dirais, comme le fait Jean Bottero, que je vous demande de lire, qui s'appelle La Mésopotamie, la naissance de l'écriture, chez Gallimard. Et j'avais écrit un livre avec Bottero et Jean Moins, hein, qui s'appelait aux éditions du Seuil, qui s'appelait comment ? Je ne me rappelle même plus le titre du livre.
Je ne sais pas si on l'a mis dans la bio, Marc.
Tu l'as mis dans la bio ?
Je vais te dire.
Ouais. Voilà, c'est un livre de 98.
Non, on l'a pas mis.
Bon, un livre de 98 sur qu'est-ce que Dieu, ou l'invention de Dieu, ou je sais plus quoi. Non, je le sais maintenant, La plus belle histoire de Dieu. C'était une collection au Seuil, La plus belle histoire de Dieu, avec Jean Bottero et Jean Moins, et France, un des plus grands spécialistes de la Mésopotamie, disait tout simplement, la Mésopotamie, c'est une civilisation de l'argile. C'est une civilisation de l'argile. C'est-à-dire que tout était fabriqué en argile, la construction était en argile, mais, et la Mésopotamie invente l'écriture. Mais comment la Mésopotamie invente l'écriture ? Avec des tablettes en argile, avec des roseaux qui sont taillés d'une certaine façon, qui vont pouvoir écrire sous forme de ce qu'on appelle les cunéiformes. Voilà. Maintenant, cette civilisation de l'argile, qu'est-ce que la Bible en retient ? Elle en retient la chose suivante. C'est que si l'homme est un animal qui est ontologiquement capable de faire des promesses, mais qui est presque ontologiquement incapable de les tenir, il faut construire un droit des contrats qu'à partir du moment où les contrats seront authentifiés par ce qu'on appelle le système à la fois des témoins et le système de la signature. C'est parce que la signature a été inventée en Mésopotamie que les contrats ont pu exister de manière juridique. Or, qu'est-ce que c'est qu'un Mésopotamien ? C'est ce qu'on appelle un sceau mésopotamien, dont je vous montre Mésopotamien, voilà, dont je vous montre l'image ici, on le voit très très bien, ici, ou on le voit encore mieux là, regardez, voilà, ici, on le voit très très bien, je le fais encore en plus gros, ça s'appelle un sceau cylindre, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un sceau cylindre ? Un sceau cylindre, c'est une des plus belles inventions, et c'est encore, je suis désolé, c'est encore le commentaire de Rashi qui nous donne cette interprétation. Et il nous dit que pour qu'il puisse y avoir signature, c'est-à-dire que l'on puisse rouler le sceau cylindre, et que quelque chose apparaisse, il a fallu que dans le sceau cylindre lui-même, l'image, elle a été creusée, elle est en creux, alors que la signature sera en bosse. Si je prends n'importe quel sceau cylindre, regardez, on le voit ici, ça fonctionne exactement de la même façon, il est magnifique celui-là, bien qu'il ressemble beaucoup à celui qu'on a vu, mais j'espère, voilà, on est au Louvre, regardez, j'en fais une plus grosse image, vous le voyez, on a, les artistes ont écrit en creux, ils ont dessiné en creux, et on a la signature en bosse. Or, qu'est-ce que dit Rashi ? C'est qu'il ne faut jamais traduire au commencement Dieu a créé l'homme, homme et femme. Il a créé Adam, masculin et féminin. Mais qu'est-ce que c'est que le masculin et le féminin ? Le féminin, c'est ce qui est en creux. Or, c'est une symbolique éminemment simple, mais pas simpliste, puisque dans nos attributs biologiques, on sait que la femme est du côté de l'encreux de ses attributs sexués et que l'homme est en bosse de ses attributs sexués. Ce que l'on va retrouver l'épisode du serpent et de la pomme, puisqu'on nous expliquera à ce moment-là que ce n'est rien d'autre que la dialectique du serpent sexe masculin et de la pomme, des attributs de la femme, à savoir les seins de son corps, comme des pommes. Et là, c'est une autre dialectique, mais qu'est-ce que fait, sur laquelle je ne reviens pas maintenant, mais qu'est-ce que l'homme a été créé ontologiquement maintenant, d'un point de vue sociologique, masculin et féminin, c'est-à-dire en bosse et en creux, pour qu'il y ait la possibilité dans cette civilisation d'argile d'un, qu'on appelle ça, d'un sceau qui va permettre la signature. Ça veut dire que la création de l'homme est la suite, je dirais, ontologique de l'éthique de la lumière dont nous avons parlé au début. Moi, quand j'ai découvert ces commentaires, j'ai dansé pendant plusieurs jours de joie tellement que c'est extraordinaire. Parce que ça résout la question pourquoi la création de la femme en termes de Isha, qui veut dire la femme, apparaît dans le chapitre 2, alors qu'elle est déjà normalement née dans le chapitre 1 masculin et féminin. Sauf que masculin et féminin n'a rien à voir avec la création de la femme, mais à voir avec la création de la signature. Et à ce moment-là, une fois que le droit est mis en place, on va pouvoir sortir de cette civilisation de l'argile qui s'arrête à la fin du chapitre 11 et on va rentrer dans une autre civilisation. On quitte Ur en Chaldée, Uruk, on quitte Ur en Chaldée pour aller maintenant vers la terre de la promesse. Comment ? On traduit toujours la terre promise. Alors vous connaissez cette expression ? Expression très connue, qui est une expression complètement erronée. C'est pas la terre promise, c'est la terre de la promesse. Mais pourquoi c'est la terre de la promesse? Parce que sur cette terre, tout ce qui va être garanti par le droit des contrats, le droit de la signature qu'on est en train de mettre en place. Et comment ce pays de Canaan, qui est un pays où a lieu l'idolâtrie, il y a différents dieux, comment on va passer de l'idolâtrie de la terre de Canaan en mono de la promesse, en important le droit des contrats avec la notion de signature. Et pour cela, on avait besoin d'un messager, de quelqu'un qui allait importer la civilisation mésopotamienne en terre de Canaan et construire la terre de la promesse. Et là, il y a une véritable révolution. Il y a un contresens absolu qui a été fait par 99,99% des traducteurs de la Bible, et je vous le montre quand on est en train de regarder maintenant ici le texte de Unbound Bible. On change de chapitre, et on va au chapitre 12, qui est le moment où Abraham sort de Ur en Chaldée pour aller vers la terre de la promesse. Donc je mets « rechercher » et voici la traduction. Dieu dit à Abraham « quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. » Ou bien l'Éternel avait dit à Abraham « va-t'en de ton pays, de ta parenté, de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Quelles que soient les traductions, on a l'impression d'une coupure, on a l'impression d'une rupture. Il faut quitter la civilisation de Ur, parce que la civilisation allait vers une civilisation cananéenne qui serait formidable. C'est un contresens absolu. Pourquoi? Parce que en hébreu, on va faire un petit peu d'hébreu, je vous le montre dans le texte ici en hébreu, pour le texte en hébreu dans une traduction araméenne, traduction en anglais, vous allez sur un site qui s'appelle Tanakh ML. Je vous donnerai toutes les références, je donnerai à Xavier sur parallèle. Vous avez le texte en hébreu et le texte en anglais ici, et vous voyez ici, je choisis le chapitre 12, je clique ici, hein, dans ce petit pavé, chapitre 12, et puis j'augmente la lecture pour que ça soit mieux. Vayomer Adonai à Avram, Adonai, c'est le tétragramme, dit à Avram, il va changer de nom que beaucoup plus tard, Lech lecha, va pour toi, va vers toi. Mais il est dit, me artsecha, de ta terre, ou mi moladetecha, de ton lieu de naissance, ou mi bet avicha, de la maison de ton père, elle aretz, vers le pays, asher areka, que je te montrerai. Cette lettre même, ici la lettre, vous voyez la première lettre de ce mot même, que vous retrouvez ici, c'est une lettre qui indique l'origine. Ça n'indique pas la rupture. Va vers la terre que je t'indique, à partir de ton pays, à partir de ton lieu de naissance, à partir de la maison de ton père. Ça veut dire en emportant avec toi le capital culturel que tu as acquis en Mésopotamie. Ce n'est donc pas une rupture, c'est une importation culturelle. Et j'ai démontré dans mon livre que vous pourrez retrouver, qui s'appelle « La Genèse de la Genèse », qui est sorti en 2019 aux éditions Diane de Sellier, j'ai montré que ce texte de la Genèse, exactement comme le dit Lévi-Strauss, c'est une culture, Mais pourquoi c'est une culture ? Toute culture est une coalition de cultures. C'est-à-dire que ce qu'on va appeler une culture, c'est quelque chose qui peut, comme un champ que l'on va cultiver, donner des fruits, non pas parce qu'on est auto-centré dans une identité étriquée, mais parce qu'on est ouvert à l'altérité pure qui s'enferme sur elle-même et vouée à sa disparition. On demande souvent, mais comment ça se fait que telle civilisation... une question qui est posée par Spinoza dans son livre traité théologique et politique. Pourquoi telle civilisation a disparu ? Pourquoi la Grèce ancienne a disparu ? Pourquoi les Romains anciens ont disparu, même s'ils ont légué des choses formidables ? Et pourquoi le judaïsme n'a pas disparu ? Le judaïsme n'est pas une civilisation autonome. Ce n'est pas une civilisation qui existe par elle-même. C'est une civilisation qui est une civilisation constamment en dialogue permanent avec d'autres civilisations en fonction de son histoire et des différents moments. Quand les Juifs vont être en espagnol, mais ils vont créer un judaïsme judéo-espagnol. Au point que aujourd'hui, comment on sait la prononciation du castillan du XVIe siècle ou du XVe siècle que personne ne peut entendre puisqu'il n'y avait pas d'enregistrement ? Parce que les Juifs de l'époque ont parlé le castillan de l'époque, mais quand ils ont été jetés d'Espagne en 1492, expulsés d'Espagne en 1492, et ont été dans différents pays comme l'Empire ottoman, comme la Bulgarie, ils ont gardé ce qu'ils avaient acquis de la culture espagnole et ils ont continué à parler le castillan de l'époque qu'on appelle le ladino. Et quand aujourd'hui on veut entendre le castillan de l'époque, on l'entend par l'intermédiaire de ce que le judaïsme, d'une certaine manière, est resté ce qu'on appelle, je dirais, un conservatoire. Une chose avec Rashi. Rashi, dans ce commentaire dont je viens de parler, dans ses commentaires, il met des mots en français du Moyen-Âge du XIe siècle. Vous regarderez dans le dictionnaire historique de la langue française de Alain Rey, au mot chute, C-H-U-T, chute. Et c'est marqué, plus ancienne occurrence de ce mot en français, qu'il y a dans la mentalité hébraïque l'idée que être juif, ce n'est pas être enfermé dans une civilisation judéo-judaïque, c'est toujours judéo-quelque chose, judéo-chrétienne si vous voulez déjà, judéo-italienne, judéo-espagnole, judéo-française, etc. Et ce que dit ici Abraham, le texte, prends ce que tu as appris en Mésopotamie et puis tu vas créer une nouvelle civilisation, mais qui est une civilisation de dialogue. Voilà le sens qu'a Abraham dans la tradition biblique. Mais c'est à cette civilisation mésopotamienne. Pourquoi y a-t-il un autre personnage, un très grand autre personnage qui s'appelle Moïse ? Bah, tout simplement parce que Moïse est né en Égypte, il naît comme prince égyptien, et ce qu'il va faire, il va faire exactement ce qu'a fait Abraham avec la Mésopotamie, créer une civilisation hébraïco-mésopotamienne pour Abraham et une civilisation hébraïco-mésopotamo-égyptienne avec Moïse. Ça veut dire qu'il ne va pas rejeter l'apport mésopotamien, mais il va rajouter l'apport égyptien. Et toute l'histoire de la Genèse est construite de telle manière pour nous faire arriver en Égypte. C'est toute l'histoire de Joseph qui va descendre en Égypte. Et là, je vous demande de relire Thomas Mann, c'est encore mieux que la Bible, Thomas Mann. C'est-à-dire que, dis-moi, combien de temps j'ai encore
C'est fini.
Ah, c'est fini. Ouais. Bon, alors, je termine ma phrase et après, on passera aux questions. C'est-à-dire que ce qui est complètement étonnant, mais déjà, dès la dixième ligne après le fait qu'Abraham doive aller en terre de Canaan, à la dixième, voilà, c'est au verset 10, 12-10, « Vayehi Ra'av Ba'aretz » Regardez en anglais, « And there was a famine » avec l'accent, « in the land. Il y eut une famine dans le pays. And Abraham went down into Egypt. C'est-à-dire que et Abraham est descendu en Égypte pour s'y installer. Ça veut dire que la Bible arrive dans la terre de Canaan, immédiatement, il va aller en Égypte pour pouvoir s'imprégner de la civilisation égyptienne. Et comment se crée le moteur des migrations, ça se fait par la famine. Il y avait une grande famine, il est descendu en Égypte. Je vous expliquerai ça un autre jour. On a donc et l'éthique de la lumière, qui est la mise en place du droit des contrats par la signature qui permet de tenir la promesse. On a vu le personnage d'Abraham qui nous parle de civilisation comme coalition des cultures, et on aurait parlé de Moïse qui met en place la même chose, la civilisation comme coalition des cultures avec l'Égypte, mais qui va créer la loi avec les 10 commandements. Ça aurait été un autre chapitre. Pour pouvoir conclure et m'arrêter avant les questions, il reste une chose à comprendre. Je parle encore 5 minutes, ça va ? Juste une chose à comprendre, c'est que cette loi, ces textes-là dont je parle, qui ont été écrits, on ne sait pas exactement quand, ne font pas office de loi. Ces textes-là, ont été donnés aux hommes, non pas pour qu'ils l'appliquent, mais pour qu'ils la commentent. Et la loi n'est pas ce qui est écrit dans ce texte, mais la loi, c'est le commentaire que l'on fait de ce texte. Et le commentaire peut aller jusqu'à le contraire de ce qui est dit dans ce texte. Je vous donne un exemple très important. Il pour œil, dent pour dent, ça veut dire c'est la loi du talion. Si on crève un œil, tu crèves un œil, et le Talmud dit c'est complètement aberrant. Il faut mettre en place des compensations financières de dommages et intérêts, du chômage, on paye le chômage à la personne qui est blessée, on lui paye des dommages et intérêts qui lui permettent de survivre, mais il y a une chose qui est... Si je ne disais pas cette chose ce soir, j'aurais été fautif éthiquement, c'est que il y a dans cette éthique du texte et du judaïsme en général, une chose absolument incontournable. On peut tout dire dans l'interprétation, mais on ne peut jamais dire quelque chose qui puisse suggérer un acte quelconque de violence. C'est-à-dire que si des actes de violence peuvent être commis, ils ne sont jamais commis au nom du texte, parce que le texte de la Torah est commenté par le Talmud de telle manière qu'à chaque fois qu'il y a un risque de geste de violence, il est réinterprété pour que ce geste de violence soit impossible. Et l'un des fondements du Talmud et l'un des fondements de la loi orale, c'est une éthique de la non-violence. C'est résumé dans ce verset. Si tu veux construire un hôtel à UTEL, tu ne pourras pas le construire en pierre taillée, car ton épée les aura touchés et tu auras profané ce lieu. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel, et c'est une éthique que les prophètes vont inlassablement répéter et répéter, et c'est ça le sens du... j'aurais plus longtemps à vous expliquer. Bien. Il y a eu un moment de transition très important, c'est au 1er siècle, en 70, donc déjà après la naissance du christianisme, il y a eu la destruction du deuxième temple. Et cette destruction du deuxième temple, c'est le moment de la naissance du judaïsme, le judaïsme contemporain. Je vais vous raconter une histoire, et vous allez comprendre, et je terminerai là-dessus. Au moment du siège de Jérusalem, un des grands maîtres, qui s'appelle Rabbi Yochanan ben Zakkai, dit à ses élèves, donc il y a un siège de Jérusalem par les Romains. Personne ne peut sortir, personne ne peut sortir. Sauf les morts. On a enterré les morts à l'extérieur de la ville. Faites courir la rumeur de ma maladie. On fait courir. Faites courir la rumeur de ma mort. On fait courir. Donc, on sort son cercueil. Au moment de la sortie du cercueil, le Romain, avec une épée, veut vérifier qu'il est bien mort. On dit non, c'est un grand maître, on ne touche pas à son corps. Il passe. Il sort de son cercueil et se rend chez des armées et du siège de Jérusalem. Il est général en chef romain. À ce moment-là, il arrive devant lui, il lui dit « Salut à toi, ô empereur !» Vespasien lui dit « Je ne sais pas qui tu es, mais tu es passible de la peine de mort parce que l'empereur est à Rome et si tu appelles quelqu'un qui n'est pas empereur, tu l'appelles empereur, tu es passible de blasphème contre l'empereur qui est vivant. » Au moment même où il est en train de dire cela, dit la légende, un coursier arrive de Rome en disant Vespasien, l'empereur de Rome est mort, vive le nouvel empereur, c'est Rabbi Yochanan, puisque tu as été le premier à me donner le titre d'empereur, tu peux me demander tout ce que je veux, je te l'accorde. À ce moment-là, tout le monde pense qu'il va lui demander d'arrêter le siège de Jérusalem, ce qu'il ne fait pas. Il lui demande, permets-moi de créer une école dans une petite ville qui s'appelle Yavne, où je vais amener des maîtres et des élèves pour apprendre la lecture et l'interprétation. Vespasien lui accorde ce droit et on est passé à ce moment-là par ce génie, cet acte de génie tellement extraordinaire. Il faut savoir que Freud a toujours dit qu'il s'identifiait à Rabbi Yochanan ben Zakkai, un acte de génie extraordinaire qui a fait que le judaïsme existe jusqu'à aujourd'hui. On est sorti d'un judaïsme du temps, et un judaïsme du livre, tel que je vous l'ai expliqué au début, en vous expliquant que le livre et l'être pour le livre étaient ontologiques. Je vous remercie. Merci.